Bonjour à tous. Avant de commencer, j'aimerais que Reva prie pour moi et pour l'Assemblée, afin que le Saint-Esprit vraiment puisse nous guider, nous éclairer pendant ce moment.
Merci encore, Seigneur, pour ce moment où nous avons le temps de écouter ta parole et de nous apprendre. Merci parce que tu l'as voulu aussi mettre en même temps notre matériel dans sa réplication. Que lui, tout autant que nous soit fortifié et qu'on soit grandi, ce que tout le monde nous a partagé ce matin. Dans ton nom, Jésus.
Amen. Alors, comme d'habitude, j'ai à votre disposition les références sur lesquelles je veux m'appuyer ce matin pendant cette prédication. Ces derniers temps, en fait, nous avons dit beaucoup de choses lors des trois derniers messages que nous avons partagés. J'aimerais y revenir un petit peu. Nous avons parlé de l'assurance du salut. Et nous avons dit que quelqu'un qui est sauvé est conscient qu'il est sauvé. Et parce qu'il a acquis une nouvelle nature, donc il est conscient de cette nouvelle nature, forcément. Et parce que cette nouvelle nature lui permet de persévérer dans l'Évangile. C'est la persévérance dans l'Évangile qui nous donne l'assurance de notre salut. Et donc, à partir de ce moment-là, nous avons un nouveau comportement qui est indéniable. Et donc, nous sommes sûrs que nous avons reçu une vie nouvelle, une vie de sanctification. Et cela nous a amené à ce message sur la sanctification. Nous avons vu clairement que se sanctifier, c'est avoir le mal en horreur. C'est haïr le péché, c'est-à-dire haïr tout ce que Dieu déteste. C'est ça la sanctification. D'ailleurs, le terme signifie se mettre à part. Et en fait, pour nous, c'est se mettre à part pour Dieu. C'est se mettre à part pour vivre la vie de Dieu. C'est ça, se sanctifier. C'est une démarche, nous avons vu que c'est une démarche concrète. Ce n'est pas une démarche spirituelle abstraite, mais c'est vraiment quelque chose de concret, c'est-à-dire que notre conduite quotidienne témoigne de cette sanctification. Et c'est une vie loin du péché. Et notre tout dernier message parlait des deux natures du saint. C'est-à-dire que nous avons vu clairement que lorsqu'on est sauvé, on devient un saint, aux yeux de Dieu. On est désigné comme un saint. Et on s'est posé une question, mais pourquoi en tant que saint, je pêche encore? Et nous avons vu qu'en réalité, nous avons deux natures. Nous avons toujours une nature que nous avons héritée d'Adam, la nature adamique qui est cette chair qui nous attire vers le péché. Et nous avons cette deuxième nature divine que nous avons acquise lors de la conversion. Donc on a ces deux natures. Et il nous est demandé de faire mourir cette nature adamique et de faire grandir la nature divine en nous. Mais en tout cas, nous avons ces deux natures. Et pour travailler, pour faire grandir cette nature divine, nous avons vu qu'il est important de développer de plus en plus d'intimité avec Dieu à travers des choses aussi concrètes telles que la prière, la louange, la méditation de la parole de Dieu. Ce sont des choses qui nous permettent d'avoir de plus en plus d'intimité avec Dieu et qui nous font développer cette partie divine de notre nature. Et j'ai une autre question ce matin à laquelle j'aimerais tenter de répondre. C'est maintenant que je suis sûr d'être sauvé, est-ce que je pourrais un jour perdre mon salut? C'est une question importante qui a été longtemps, qui continue d'ailleurs d'être débattue dans l'Église et dans nos pensées du moins. Beaucoup de personnes se posent cette question, mais d'accord, je suis sauvé. Mais est-ce que je ne vais pas un jour perdre ce salut que j'ai acquis? Vous allez voir que c'est un message assez court. Cette notion que je vais essayer de développer ce matin sur la perte du salut, nous allons voir que finalement, c'est sur des textes bibliques que nous allons pouvoir réfléchir, évidemment. Alors ce que je vous propose, c'est d'abord commencer par voir certains textes qui semblent dire que cette perte de salut est possible. Il y a beaucoup de textes, mais j'en ai choisi juste trois. Quelque part, l'apôtre Paul parle de faire naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire qu'à quelque part, on était bien dans la foi, et puis à un moment donné, on fait un naufrage. Et je vous propose ce texte qu'il adresse à son fils spirituel Timothée, dans sa première lettre, au chapitre 1. Il écrit au verset 18 et 19, nous pouvons lire ceci. Il parle à Timothée, il lui dit « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc là, on se dit, tiens, il y a peut-être des gens qui, à un moment donné, font naufrage par rapport à la foi. Il n'y a pas que l'apôtre Paul qui nous parle de ce sujet-là, l'apôtre Pierre aussi. Il va écrire dans sa deuxième lettre ceci, au chapitre 2, j'aimerais lire les versets 20 à 22, où il parle de retourner aux souillures du monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on les a quittés et puis on y retourne. Lisons ce qu'il écrit. « En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie, lavée, s'est vautrée dans le bourbier. » Donc là, on voit clairement que Pierre dit, à un moment donné, il y a des gens qui sont sortis des souillures du monde et qui sont retournés. Et il y a un passage qui est encore plus dur sur le sujet. C'est plutôt l'auteur de la lettre aux Hébreux qui nous dit que, carrément qu'il n'est même pas possible d'être renouvelé si on s'écarte. Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Il écrit « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances à venir, enfin les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. » Alors, quand on lit ces passages, on se dit, ah, on peut faire un naufrage par rapport à la foi, on peut retourner aux souillures du monde, et on risque même de ne pas pouvoir être renouvelé et revenir à la foi. Maintenant, j'aimerais prendre quelques autres passages qui semblent dire qu'en fait, on ne peut pas perdre la foi. On ne peut pas perdre son salut. L'apôtre Paul parle de repentance irréversible. Lorsqu'il écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 7, verset 10, « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. » Et toujours aux Corinthiens, dans sa première lettre, il va dire qu'une fois qu'on est affermi, une fois qu'on est sauvé, Dieu va nous affermir jusqu'à la fin. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 8. « Dieu vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et j'aimerais finir par un passage de Jésus, où Jésus parle lui-même dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10, versets 27 à 29. Vous connaissez sans doute ce passage où Jésus est en train de dire qu'on ne peut pas être ravi de la main de Dieu. Il écrit, Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous. » Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc là, on dit, mais en fait, il n'est pas possible de se détourner. Quand on est dans la main de Jésus, ce n'est pas possible de repartir. Donc on se dit, on se retrouve devant une contradiction entre les passages. D'un côté, des passages qui nous disent, on peut se détourner de la foi, et l'autre qui dit, une fois qu'on a le salut, d'autres qui disent, quand on a le salut, c'est fini, c'est bon, on est dans les mains de Dieu, on sera affermi jusqu'au bout, jusqu'à la fin. On ne se repentira jamais, plus jamais, de la repentance à salut. Il faut bien que nous trouvions une synthèse à tout ça. Comment lever cette contradiction que je dirais apparente? Moi, je vous fais une proposition. C'est une proposition. En me basant sur certains textes toujours des Écritures, notamment un verset qui me semble la clé de compréhension de tout ça, la clé de voûte qui va nous permettre de dépasser cette apparente contradiction. Il s'agit de la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, verset 39. Un verset qui semble anodin, mais qui, pour moi, vraiment nous donne une clé de compréhension. Il est écrit, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ce qu'on voit dans ce verset qui paraît si simple et anodin, c'est qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a donc ceux qui se retirent pour se perdre, et puis ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Cela veut dire quelque part que celui qui a la foi sauve son âme. Ça veut dire que quelque part, il y a ceux qui ont la foi pour sauver leur âme et ceux qui n'ont pas la foi pour sauver leur âme. Ça veut dire que quelque part, en fait, il y a deux types de foi. Et une foi vraiment qui sauve. Souvent, on entend la foi qui sauve. Cela veut dire quelque part qu'en fait, ceux qui se retirent n'ont pas la foi. Parce que le passage nous dit, ceux qui se retirent, je reprends le passage, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ça veut dire que ceux qui se retirent n'ont pas la foi pour sauver leur âme. Ça veut dire quelque part, moi, ce que je comprends là, c'est qu'il y a une foi véritable à avoir pour sauver son âme. On peut avoir une foi, une certaine foi, là on peut se retirer, mais quand on a la foi qui sauve l'âme, on ne peut pas se retirer. Je parlerai de foi véritable ou de foi qui sauve. Je crois que c'est le cœur de l'affaire. Il y a une parole de Jésus. Vous vous rappelez, quand on a partagé le message sur le salut, on a beaucoup insisté sur la foi qui sauve. Les gens se demandent, mais pourquoi on parle de la foi qui sauve? C'est-à-dire qu'il y en a une qui ne sauve pas. Il y a une parole de Jésus qui semble confirmer clairement ce que je suis en train de dire. Il y a même plusieurs paroles, mais je vais prendre ce passage dans Luc, chapitre 13, versets 25 à 27. Jésus donc donne une parabole, il dit, « Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. » Jésus parle des personnes qui ont vécu avec lui. Nous pourrions dire, « Tu as enseigné dans nos églises. » Ces gens qui ont été avec dans les groupes avec Jésus, qui ont mangé avec lui, qui ont pris la Sainte Cène. Et Jésus dit, je ne sais d'où vous êtes. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut bien entendre, c'est que Jésus ne dit pas, je ne vous connais plus. Il dit, je ne vous connais pas. Je ne sais d'où vous êtes. Il ne dit pas, à un moment donné, je vous ai connu et puis maintenant, je ne vous connais plus. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais d'où vous êtes. C'est vraiment important qu'on comprenne ça, qu'à un moment donné, les personnes que Jésus rejette, Jésus dit, je ne les ai jamais connues. Et c'est ce qu'il va confirmer d'ailleurs dans un passage qui me tient, moi, personnellement, particulièrement à cœur, c'est Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Et pour moi, c'est un passage extrêmement important pour nous, pour notre réflexion sur notre marche avec le Seigneur, c'est vraiment très important. Jésus dit, ça ressemble à ce que je viens de lire, où Jésus dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pour moi, c'est cette phrase qui me frappe. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Il ne dit pas, je ne vous connais plus. Il dit, je ne vous ai jamais connu. C'est comme s'il disait, vous n'avez jamais eu mon esprit. Ces gens n'ont jamais eu l'Esprit du Christ. Parce que si ils les avaient eus, ils auraient connu Jésus, ou Jésus les aurait connus. Là, Jésus dit, je ne vous ai jamais connus. Et pourtant, ils ont fait des miracles, ils ont prophétisé, ils font des choses au nom de Jésus. Mais Jésus dit, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais même pas d'où vous êtes. Je ne sais pas d'où vous venez. Et ça veut dire quelque part que c'est des gens qui n'ont jamais eu la foi. C'est-à-dire cette foi qui sauve, la vraie, la véritable. Ils ont eu quelque chose comme une foi. Mais Jésus dit, cette foi-là, je ne la connais pas. Vous n'êtes pas mes enfants, je ne vous connais pas. Pour moi, c'est des gens qui n'ont jamais eu le salut. Si on n'a jamais eu l'Esprit de Christ, on n'a jamais eu le salut. Et donc, on ne peut pas perdre ce qu'on n'a pas eu. C'est là où je veux en venir. On ne peut pas perdre ce qu'on n'a pas eu. Je prendrai un exemple. Imaginez, vous trouviez un billet de banque, 500 euros. Tiens. Mais un faux billet de banque. En fait, ça n'a pas la valeur de 500 euros. Ce n'est qu'un bout de papier. Donc, si vous prenez un faux billet de 500 euros, si vous le perdez, vous ne perdez pas 500 euros. C'est ce que ça veut dire. Parce que ce n'est pas véritable. Ce que j'ai ici n'est pas véritable. Quand je le perds, je ne perds pas la valeur. Donc, si je perds un faux billet de 500 euros, je n'ai pas perdu 500 euros. C'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que si ma foi n'est pas véritable, si je la perds, je ne perds rien. Je n'ai pas perdu la foi. Si mon salut est faux, je ne perds pas mon salut. Donc, le vrai salut, la foi qui sauve, c'est autre chose. Donc, c'est là où je pense que, je le répète bien, c'est ma compréhension personnelle de ce sujet-là, c'est que quelque part, il n'y a pas de contradiction pour moi dans le passage biblique. Si on prend bien tous ces textes, on voit, pour moi, il n'y a pas de contradiction. On ne perd pas le salut véritable. Mais on peut perdre le faux salut. Pour moi, c'est ça. Donc, les textes ne se contredisent pas, pour moi. On peut perdre, je dirais, un salut virtuel. Voilà, aujourd'hui, on est dans le virtuel. Les gens aiment beaucoup le virtuel. Pour moi, c'est ça. On peut avoir un salut virtuel. Et le jour, on peut le perdre. Mais en fait, on ne perd pas la véritable foi, puisqu'on ne l'a jamais eu. Et donc, on comprend que ce que Jésus dit a tout à fait un sens. Quand il dit, je ne vous ai jamais connu, parce que vous n'avez jamais eu la vraie foi. Vous êtes, voilà. Mais malgré tout ce que vous avez fait en mon nom. Donc, finalement, on peut dire que lorsqu'on a la foi véritable, la perte du salut est impossible. Donc, les textes qui disent que la foi, enfin, on ne peut pas perdre le salut, sont tout à fait vrais, sont tout à fait authentiques. Celui qui a le vrai salut ne peut pas le perdre. Et on voit de l'autre côté que ceux qui ont la foi ou le salut virtuel, ils le perdent. Le salut virtuel. Alors, pour conclure sur le sujet, je répète que d'interminables débats ont eu lieu sur ce sujet. Et ça continue d'ailleurs. Des débats théologiques. Est-ce qu'on peut perdre ou est-ce qu'on ne peut pas perdre son salut? Des volumes ont été écrits sur le sujet. De l'encre a coulé pendant des siècles sur ce sujet. Mais moi, je pose cette question, est-ce bien important? Est-ce vraiment la question la plus importante pour nous? De savoir si oui ou non on va perdre le salut. La vraie question pour moi, c'est suis-je véritablement sauvé aujourd'hui? C'est la seule question qui devrait nous préoccuper. Suis-je sauvé aujourd'hui? Est-ce la foi véritable? Suis-je vraiment dans les mains du Sauveur aujourd'hui? C'est l'aujourd'hui qui nous intéresse. Ce n'est pas si demain je vais perdre ma foi ou pas. Il faut vraiment qu'on se dise, on se pose la vraie question, est-ce qu'aujourd'hui j'ai la foi véritable? Est-ce que je suis tenu par les mains du Créateur desquelles je ne peux pas sortir? Voilà la vraie question qu'il faut se poser. Ai-je la foi véritable, c'est-à-dire la foi qui sauve? Est-ce que c'est celle-là que j'ai? C'est vraiment la question que nous devons nous poser. Donc, finalement, si je veux laisser un message, un seul message ce matin, c'est, ou ma seule exhortation finalement, c'est que chacun s'assure de l'authenticité de sa foi. C'est la seule chose qui importe, finalement. Finalement, ça va être... on aura l'occasion vraiment de redévelopper ça lors de notre prochain message sur l'authenticité de la foi. Qu'est-ce qui nous permet de savoir si notre foi est véritable ou non? Voilà. Mais aujourd'hui, je voulais juste introduire la question comme ça en rappelant ces passages bibliques qui semblent nous déranger parce que ça semble contradictoire. Mais pour moi, il n'y a pas de contradiction. Ce qu'il faut, c'est avoir une foi véritable pour avoir le salut, le vrai salut qu'on ne perd pas. Et que chacun, d'ici le prochain message, médite sur cette question et s'interroge sur sa foi et voilà, pour s'assurer que vraiment sa foi est authentique, pour avoir la vraie assurance du salut et la paix qui va avec. Que Dieu vous bénisse.